on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À Conduite Antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite Antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but!
Les Remparts de Québec reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda ce vendredi 10 mars à 19h. Rejoignez Rick Loutier dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Huskies, vendredi 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Vendredi 10 mars 2023, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. On va vous retrouver cette semaine. Plus fait soleil dehors, comment ça va? Semaine de relâche pour certains, semaine de relâche déjà finie, ça dépend dans quel coin vous restez, ça arrive. Les aléas de pas mettre tout le monde en même temps en congé. Ou du moins, essayer de planifier le congé. Puisque, depuis 3 semaines, ben 2-3 semaines, on a réouvert la SAC, Société de l'assurance automobile du Québec. Après l'avoir fermée pendant 1 mois. Oui, les gens sont au courant. On va fermer pendant le mois de février et on va réouvrir juste avant la semaine de relâche. Donc, on ferme un établissement au complet. Il n'y a plus de possibilité de transaction, de faire son permis de conduire si on a besoin, de le payer si on est né au mois de février, etc., etc., etc. Et quand on réouvre, en plus du mauvais timing, ça marche pas. Et on est là-dedans depuis au moins, c'est ça, les 2 à 3 dernières semaines de « ça n'a pas de bon sens, comment ça ne fonctionne pas à la SAC. » Pour les transports au Québec. Au point où la ministre du transport et comme par hasard vice-première ministre. Et ça donnait droit d'ailleurs à des communiqués cette semaine qui mélangeaient un peu les fonctions. On y reviendra. Donc, Geneviève Guilbeault, qui était à faire des voyages en Europe, à faire des photos et rencontrer du monde pour jaser d'autobus et de tramway, on imagine. Parce que c'est toujours pas clair pourquoi qu'elle était en Europe depuis une semaine. Ben là, elle a décidé d'écourter son voyage en France et de revenir au Québec parce que la situation n'avait pas de bon sens. Parce que depuis la France, vendredi dernier, elle disait qu'elle voulait que la Société d'assurance automobile, tout soit réglé d'ici lundi. Et là, lundi dernier, ben tout n'était pas réglé. Donc, Geneviève Guilbeault est revenue en plein milieu de la semaine en disant « ça n'a pas de bon sens, il faut que ça soit réglé ». Donc, pour régler ça, il fallait qu'elle soit sur place. Jusque-là, tout va bien. Après ça, qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire pour que tout soit réglé et qu'un système informatique arrête de planter, à part prendre des clients au guichet numéro 6? La question reste très nébuleuse. Tu sais, Geneviève Guilbeault n'a pas énormément de pouvoir non plus parce que justement, le système informatique n'est pas bon. Et semble-t-il, et c'est ça qui est drôle, qu'on avait dit aux gens de la Société d'assurance automobile que le logiciel qu'ils voulaient prendre, que ironiquement, Hydro-Québec avait pris dans le temps, qu'il avait de la misère à fonctionner lorsqu'il avait été implanté, ben à la Société d'assurance, on a dit, ben c'est pas grave, on va prendre le même. Donc, en plus de prendre un logiciel qui ne fonctionne pas vraiment, c'est un peu comme le système de paye Phoenix au fédéral, on a décidé de reprendre celui-là pour que ça devienne compliqué pour tout le monde. Parce que depuis tout ce temps, si on essaye de faire une demande, si on essaye d'accéder, parce que justement on essaie d'éviter de se rendre sur place à la SAAC, ben il y a aucun logiciel qui marche. Et en plus, pour se faire authentifier, ça demande des documents que probablement 99% des gens n'ont plus nécessairement en leur possession ou ne se souviennent plus s'ils l'ont encore ou que ça a été serré. Parce qu'en plus de demander d'avoir évidemment son numéro de permis, on demande d'avoir genre son numéro d'assurance maladie, jusque-là tout va bien, et on demande d'avoir deux anciens relevés d'avis de cotisation. Donc, le papier vert et le papier bleu qu'on reçoit à notre fête, ils voulaient avoir les deux derniers. Et là, évidemment, ça ne dit pas si c'est en plus de celui de cette année, donc avoir deux anciens avis de paiement pour pouvoir authentifier que c'est bel et bien vous sur votre dossier. Et ça, généralement, ce papier-là, on le garde pas. C'est ça qui est ironique, parce que pourquoi garder des retailles de papier? Parce qu'on a enlevé de toute façon la preuve d'immatriculation et la preuve d'assurance du papier original. Donc, pourquoi garder le reste? Donc, ça prenait ça pour se faire authentifier sur le site de la SAAC. Évidemment, depuis, on a dit qu'on n'avait plus besoin de ces deux papiers-là, mais quand même. Donc, à la base, ça devenait compliqué de s'inscrire pour éviter de se rendre sur place. Et quand on essaye de se connecter sur le site, ça fonctionne pas non plus, ça dit erreur 500. Jusque-là, rien de particulièrement intéressant pour personne. Parce qu'après ça, on a des files d'attente à peu près dans toutes les succursales où on est capable d'aller filmer. Et ça donne des images de gens qui attendent pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures pour finalement se faire dire « revenez demain ». Ce qui n'est pas non plus une bonne tactique. Donc, cafouillage, on comprend plus rien. On ramène ça en plus dans une période de vacances, comme je le disais, parce que c'était la semaine de relâche. De manière ultra malhonnête, TVA Nouvelle est allée fouiller le Facebook des employés de la SAAC pour en trouver une qui était dans le sud cette semaine, puis dire « pendant que c'est le bordel, il y a des employés dans le sud », comme si c'était de sa faute à elle. Précisément cet employé de la SAAC qui se ramasse malgré elle dans un genre de controverse parce que son Facebook était public. Ça, c'était cheap, ça, faut le dire. Ça fait en sorte que pour cette transition numérique, hein, parce que c'est ça un peu l'idée, parce qu'on disait qu'on voulait se débarrasser des fax en 2023, ben cette transition numérique-là doit être évidemment chapeautée par quelqu'un ou quelque part. D'où arrive le tout nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique, que l'on peut lire sur le site du gouvernement. Le ministère de la cybersécurité et du numérique est en charge de diriger et de coordonner les actions de l'État dans le domaine de la cybersécurité et du numérique. Le ministère a pour mission de diriger, bon, et de coordonner les actions de l'État, de proposer au gouvernement les grandes orientations en ces domaines, de déterminer les secteurs d'activité où il entend agir en priorité et de proposer au gouvernement des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et des cybermenaces au Québec. Donc ça, c'est la mission du tout nouveau ministère d'Éric Kerr. Et cette semaine, pendant que Geneviève Guilbeault écourte ses voyages, fait la tournée des médias, va faire le tour à Salut Bonjour, à Patrice Roy, à RDI, à Céline Galipeau, pendant qu'elle fait le tour en présentiel, Éric Kerr est dans son bureau et fait déplacer les journalistes ou fait des calls sur Zoom pour dire « C'est pas de ma faute. C'est la faute de la SAC. » En gros, c'est à peu près ça qu'il a dit. Plaide que son ministère n'a rien à voir avec la SAC et il estime qu'il aurait dû recevoir des éloges pour sa partie du projet. Parce que oui, effectivement, on ne peut pas dire que c'est de la faute à Éric Kerr si le logiciel ne fonctionne pas. Mais que Éric Kerr dise que c'est complètement la faute de la SAC, si ça a été mal géré, c'est de les jeter en dessous de l'autobus généreusement et de s'en laver les mains quand il est, je le rappelle, le tout nouveau ministre depuis moins de 2 ans de la cybersécurité et du numérique. Parce que qui a pensé à cette idée géniale de conserver ces papiers des 2 dernières années alors qu'on ne savait pas que ça nous prendrait ces papiers-là des 2 dernières années? Le ministère d'Éric Kerr. Mais sa partie à lui devrait recevoir des éloges selon le principal intéressé. Des choix stratégiques d'Éric Kerr et de son ministère seraient montrés du doigt dans le fiasco de SAC-Click. Un superbe jeu de mots. C'est du moins ce qu'avancent de nombreuses sources engagées dans le dossier. J'allais dire enragées, mais en fait, probablement qu'ils sont enragés aussi, mais là-dessus, sont engagés dans le dossier qui ont accepté de se confier au bureau du Journal de Montréal. La collision frontale entre la SAC et le ministère du numérique conduit à l'un des pires fiascos informatiques des 10 dernières années au Québec. Et ce qui est drôle, c'est que, et c'était rappelé par, entre autres, Jean-François Lisée à l'émission Des Mordus, des ex à RDI, on peut dire beaucoup de choses sur Jean-François Lisée. Il l'échappe sur beaucoup d'affaires, mais là-dessus, il avait raison. Parce qu'il était là quand Éric Kerr était dans l'opposition pour décrier le Parti libéral et décrier le Parti québécois dans leur incapacité de faire fonctionner les services informatiques comme du monde, puis que ça n'a pas de bon sens, que l'Internet ne marche pas, puis nanana. Mais c'est drôle quand il est rendu à la tête du ministère créé spécialement pour qu'il occupe cette fonction et qu'il quitte cette chaise juste de ministre adjoint au Trésor, qu'il devienne vraiment un ministre de la cybersécurité. Ah, là, c'est plus de sa faute, c'est la faute de la SAC. En entrevue, le ministre a indiqué qu'il était extrêmement surpris de la situation et que pourtant, à l'automne, quand on en discutait en papier et en virtuel, tout était correct. Son ministère était bel et bien au courant qu'aucun plan tangible de communication avec la SAQ n'avait été établi, confirmant les sources. Bien qu'il rejette le blâme sur la SAC, le ministère aurait dû préparer le terrain depuis des mois. Parce qu'encore une fois, est-ce qu'on se souvient d'avoir vu sortir dans les médias Éric Kerr, ministre, pour dire que là, prévoyez le coup qu'en février prochain, la société d'assurance automobile ne sera pas opérationnelle? On l'a appris à peu près une semaine avant, et ça, c'est parce que la SAAC commençait à faire des publicités ou à en parler sur son site, qu'il y avait un gros écriteau rouge qui disait « La semaine prochaine, nous serons fermés pour 3 autres semaines ». Il n'y a jamais eu de tournée des médias d'Éric Kerr pour dire « Attention, là, on fait des grosses rénovations à la SAAC, la numérisation des documents va prendre 3 semaines, veuillez prévoir le... » C'est jamais arrivé. Et là, on a Geneviève Guilbeault qui essaie de tout rattraper pour tout le monde, pour que tout le monde passe une belle journée. Et dans le même coup, Éric Kerr vient dire « C'est pas de ma faute. C'est à eux autres de mieux s'arranger. » Ça manque un petit peu de compassion, disons ça comme ça, ou en tout cas, ça manque de vouloir se faire aimer de sa propre gang. Parce que disons après ça que si n'importe quel autre projet, parce qu'en plus, semble-t-il que le dossier suivant après la SAAC, c'était supposé d'être la santé, hein, numériser les dossiers de la santé. Si on se fie à ce qui se passe en ce moment, évidemment, ça sera pas une grosse réussite non plus. Mais tout ça pour dire que cette espèce de... Bon, débarrassez-vous-en, tu sais, c'est pas moi, là. C'était pas à moi de dire au monde qu'il fallait que ça leur prenne leurs vieux documents pour être capable de s'inscrire, nanana. Quand des informations comme nos assurances, pas les assurances, mais les impôts au fédéral, se connecter sur son portail au fédéral, on a seulement besoin de notre numéro de carte de crédit ou de carte débit authentifié par notre banque, et par la suite, on a accès à toutes nos informations au fédéral, de combien on peut déposer dans son CELI, de qu'est-ce qu'on a payé, quand est-ce qu'on va recevoir nos chèques de 500$ pour l'aide, peu importe comment qu'elle s'appelle, mais qu'au Québec, ça prend le numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro d'assurance maladie, ça prend 8 millions d'informations, quand on pourrait utiliser le système authentificateur de rentrer votre numéro de carte de débit, votre mot de passe, ça devrait fonctionner. Tu sais, il y a des moyens simples. On a décidé de prendre le moyen le plus complexe et on n'a parlé à personne. Et après ça, ben c'est ça, les gens sont arrivés, ils se demandaient c'est quoi l'avis de cotisation. Personne n'avait pris le temps d'expliquer, il y avait de l'éducation à faire à la population, mentionne une personne en haut lieu. Néanmoins, le ministère affirme qu'il aurait dû recevoir des éloges pour cette partie du travail. Évidemment, ben, l'opposition est fâchée et on demande une commission d'enquête publique. Parce que pourquoi pas, c'est un mot à la mode. On le demande à Justin de faire une commission d'enquête publique. On diffame quasiment aussi, hein, comme Pierre Poilievre le fait au côté fédéral. Mais au Québec, c'est un fiasco prévisible. On savait que ça allait pas bien se dérouler, que ça allait être complexe, que les gens étaient mal informés. On y va de l'avant et non, c'est pas de ma faute. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, fait que c'est pas moi nécessairement le responsable. Donc voilà, c'est la gestion à son meilleur. Donc autant Geneviève Guilbeault a réussi à essayer de recoller les pots cassés avec de la colle qui tient pas super bien, Éric Kerr est allé botter ça en disant « Remerciez-moi pour le travail que j'ai fait ». Donc voilà pour la semaine. La semaine au provincial, du moins. On s'arrête quelques instants au retour. La suite de cette émission du deuxième service. Vous écoutez les. Vous écoutez le deuxième service. Voilà, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3.
Tu as bondi dans la vie comme un ballon de football. Tes yeux comme des rubis criaient ton envie de vivre. Dis-moi, 6 ans plus tard, te sens-tu libre? Dis-moi, 6 ans plus tard, te sens-tu libre? Comment trouves-tu la cour d'école? Remarques-tu le jeu sous les paroles? 3-5 quarts de Pokémon plus tard, te sens-tu libre? 3-5 quarts de Pokémon plus tard, te sens-tu libre? Partout a bâti la terre. Ton père n'a pas toutes les réponses. Parfois tu coules dans le silence. Dis-moi, 6 ans plus tard, te sens-tu libre? Dis-moi, 6 ans plus tard, te sens-tu libre?
De retour au deuxième service, Jean Do qu'on vient d'entendre en musique avec 6 ans plus tard. 304 Pokémon, c'est pas beaucoup, surtout qu'ils sont maintenant rendus à 1006-1007. Fait que il t'en manque une coupe, Jean. T'en manque une coupe. Précision sur la SAAC. Le logiciel qui avait été choisi n'est pas une suggestion. Je veux juste être sûr, j'ai dit les bonnes choses. N'est pas une suggestion du ministère de la cybersécurité. Ça, c'est vraiment eux qui avaient choisi ce logiciel-là, même si Hydro-Québec avait eu des problèmes lorsque eux l'avaient utilisé également. Éric Kerr arrive réellement à la transformation numérique où il a exigé qu'on demande des papiers pour s'authentifier, des papiers que peu de gens possèdent. Donc, c'était surtout cette implication-là. Donc, effectivement, ce n'est pas à cause de lui si le logiciel ne fonctionne pas, mais la job en amont qu'il était supposé faire, il ne l'a pas fait non plus. Pierre Poilievre va pouvoir dormir sur ses deux oreilles puisque les gens n'iront plus demander l'aide médicale à mourir dans les banques alimentaires comme il l'a répété trop souvent dans des affaires qui se peuvent pas puisque le projet de loi visant à retarder l'expansion du régime canadien d'aide médicale à mourir est rendu au Sénat mais ne devrait pas être adopté avant l'an prochain. L'expansion qui était initialement prévue pour le 17 mars inclurait les personnes dont la seule condition sous-jacente est un trouble mental. Le ministre de la Justice, David Lametti, a annoncé le report en février l'année prochaine, affirmant qu'il fallait plus de temps pour s'assurer que les professionnels de la santé et la société canadienne sont préparés à cette expansion. L'élargissement devrait désormais se produire 1 an plus tard, donc en mars 2024. Les responsables fédéraux affirment que les délais laisseraient plus de temps pour élaborer des normes de pratique et des lignes directrices d'évaluation pour les demandes complexes d'aide à mourir. Alors que tous les partis ont appuyé, évidemment, les conservateurs étaient contre, du moins dans la forme que le projet avait. Les Canadiens souffrent psychologiquement, avait souligné Pierre Poilievre après avoir énuméré certaines crises sociétales qu'il impute évidemment toutes à Justin Trudeau, soit que ça soit toute la faute, bien toute la faute à Justin Trudeau. S'il y a des surdoses d'opioïdes, si les gens ne sont pas capables de s'acheter une maison et s'il y a de l'inflation, hein? La fameuse Justinflation. Quel truc ingénieux. Le gouvernement devrait agir à la base du problème avant de penser à élargir le médical à mourir aux personnes souffrant de maladies mentales. On devrait renverser les causes de cette désespérance au lieu de dire aux gens qu'ils devraient terminer leur vie. En tout cas, c'est tellement malhonnête. C'est tellement malhonnête, mais en même temps, malheureusement, il y a des gens qui prennent ça pour du cash et qui disent « Ah, il a raison, Pierre Poilievre, pareil, mais c'est pas vrai. » La loi sur l'aide médicale à mourir est en vigueur depuis mars 2021, mais elle comprend une clause de temporisation de 2 ans sur les dispositions visant à étendre l'admissibilité aux patients souffrant uniquement de maladies mentales. Cette clause venait à échéance, la semaine prochaine. Donc, qu'on se donnait jusqu'en mars 2023, lorsqu'on était en mars 2021. On se donnait 2 ans pour statuer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute une année supplémentaire. Parti conservateur étant d'accord depuis le début sur les fondements, on nous avait promis que l'aide médicale à mourir constituait une mesure de dernier recours pour ceux qui subissent la douleur intolérable et incurable à la fin de leur vie. C'est encore ça. C'est le Sénat qui a tenu à intégrer les personnes ayant une maladie mentale et le gouvernement a accepté cet amendement sans broncher. Les députés avaient adopté le nouveau critère d'admissibilité à l'obtention de l'AMMM, de l'aide médicale à mourir, y compris par les personnes souffrant de maladie mentale, explique le Sénat a eu après que le Sénat a eu entendu quelques 120 experts. Je sais pas quel genre de maladie mentale ils pensent que le monde sont supposés avoir, mais tu sais, c'est pas n'importe qui peut faire « je veux mourir ». Non, c'est pas de même que ça marche. En tout cas, ça semble être stretché un petit peu. Tous les principaux, voilà, qui affirment le projet retarderait d'un an, David Lametti demande un délai plus long. Bon, voilà, ça essentiellement, c'est la même chose. Je pensais que c'était un nouvel article, mais c'est la même chose. Les pensées suicidaires sont souvent un symptôme de troubles psychologiques et fournir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes donne une manière létale de mettre fin à leur jour. Denise Batter, sénatrice conservatrice, souhaite voir davantage de soutien psychologique disponible, de l'aide et de l'espoir plutôt que l'aide médicale à mourir. Là, est-ce que c'est d'être de la mauvaise foi ou c'est de tourner les coins ronds pas mal? Parce qu'effectivement, de juste dire « je veux mourir » n'est pas un critère d'admissibilité pour recevoir l'aide médicale à mourir. Je sais pas à quel jeu il joue, mais c'est un peu désespérant de voir ça. C'est une espèce de mal informer les gens, parce que oui, on peut peut-être inclure les personnes qui ont une maladie mentale, mais une maladie mentale qui ne leur donne plus aucune possibilité de vie que du monde. Dans ce cas-ci, on parlait plutôt d'Alzheimer, mais tellement dégénératif que on se souvient même plus de ce qu'on a fait 2 minutes avant et qu'on se souvient même plus de qui qu'on est. J'ose comprendre que c'est davantage cette partie-là qui sera encadrée plutôt que juste quelqu'un qui dit « Ah, je ne veux plus mourir. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir. » Ce qui serait beaucoup trop simple, et de toute façon, les médecins ne signent pas un papier sur le coin d'une table. Il y a des rencontres, faut que ça soit sûr et certain, il y a tellement d'étapes avant d'arriver à cet événement-là. Et en plus, la journée même, on va être sur le bord de le faire, on est obligé de redemander « êtes-vous certain que c'est vraiment ce que vous voulez ?» Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je sais pas c'est quoi l'espèce de tactique ou en tout cas l'espèce de tentative de discréditer la chose, mais ça me semble un peu cheap. Ou en tout cas, ça me semble un peu... ça me semble très particulier. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Pour l'instant, on rajoute au calendrier une année supplémentaire pour être bien certain que, justement, toutes les balises soient bien d'encadrer, que les experts, s'il y en a d'autres à rencontrer, le soient. Et que justement, on fasse le partage dans ce cas-ci, parce que ça semble être l'interrogation principale, mais qu'on fasse bel et bien le partage entre quelqu'un qui dit « je veux mourir comme ça parce qu'elle est en dépression » versus quelqu'un qui signe un papier parce qu'elle a reçu un diagnostic de maladie dégénérative que lorsqu'elle ne sera plus apte, éventuellement, d'ici le temps que ça prendra, parce qu'il y en a que ça peut prendre plus de temps que d'autres, ou beaucoup moins de temps que d'autres, ben que eux soient bien encadrés, qu'ils puissent recevoir malgré tout les traitements auxquels ils souhaitent. Et dans cette idée-là, c'est davantage logique que de juste penser que n'importe qui rentre dans son bureau de médecin et dit « j'aimerais l'aide médicale mourir, Justin Trudeau pourrit ma vie ». C'est pas suffisant comme argument. Encore une fois, c'est de l'ironie, c'est le discours que tiennent en ce moment les conservateurs fédéraux. On s'arrête quelques instants. Au retour, la suite de cette émission du deuxième service, vous écoutez les ondes de Chiz à Québec au 94.3 et les ondes de CFAC 88.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons le monde pour Black Hey Yo. Appelle-moi la Lionne, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Shiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Shiz 94.3.
Ce qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Lâchons la politique. Retournons du côté ludique de la chose. Côté ludique. Télé! Parce que oui, la télé continue de produire des choses. Allons... On finira l'émission avec le débat Tout.tv parce que là, depuis une couple de semaines, les gens sont fâchés contre l'extra de Tout.tv. Soudainement, je sais pas trop ce qui se passe avec l'extra, mais en tout cas, on est fâchés contre l'extra. Mais il y a deux produits qui en valent extrêmement la peine en ce moment, qui valent le détour et qui seront à l'affiche imminemment à la télévision traditionnelle. Donc, n'ayez pas trop peur, là. Vous allez finir par regarder ces émissions. L'extra de Tout.tv donne une avant-première et la télé traditionnelle finit par les passer à la TV. Le premier, parce que justement, il y a juste qu'un seul épisode, mais les autres s'en viennent très bientôt, soit le 16, 23 et 30 mars. C'est le retour d'un gunfille. J'en ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. En comparant, bon, pourquoi un gunfille, le retour allait être meilleur que celui de la petite vie, on n'y reviendra pas. Et pour avoir finalement vu le premier épisode, puisqu'il a été déposé hier soir sur la plateforme de l'Extra, ben hier dans la journée, mais je l'ai écouté hier soir, ça fonctionne énormément. Mes craintes étaient plutôt basses de pas réussir ce retour-là, mais... Il n'est pas tout à fait... C'est pas un gunfille tout à fait comme il l'a été dans le passé. Au sens où, bon, on retrouve évidemment les personnages importants, mais tout ça, mais on n'est pas comme dans la dynamique du gunfille traditionnel. Au sens où on a une histoire qui se tient davantage d'un point A à un point B que... Par exemple, bloc 1, c'est les scènes au lit. Bloc 2, c'est sur la route. Bloc 3, c'est à la pharmacie. Et on fait que des jokes de pharmacie pendant cette période-là, que des jokes sur l'autoroute dans celle-là et que des jokes de chambre à coucher dans celle-là. On se promène quand même entre les lieux et justement... La différence, c'est qu'il y a une espèce de fil conducteur entre les sketchs. Parce que, bon, dans les épisodes traditionnels, justement, quand on est au salon, quand on est dans la chambre, quand on est dans la cuisine, ben ça peut être plusieurs journées. C'est pas nécessairement tout le même souper ou toute la même soirée. Tandis que là, comme c'est un fil conducteur, ben le premier épisode, ben on commence dans la chambre, on va sur Zoom avec la fille aînée, on va après ça dans le jardin, sur la rue, dans le char, à Montréal, on revient à la maison. Fait que tu sais, on se promène. Tu sais, on se promène dans les lieux. C'est vraiment une histoire traditionnel, j'ai envie de dire. Bon, l'infographie non plus est pas tout à fait comme en 97-2003. On se rapproche peut-être un petit peu plus de ce que la France faisait avec un petit peu plus de statistiques. Ou en tout cas, les couleurs sont peut-être un peu plus comme le produit français, ironiquement, même si c'est nous autres les créateurs originaux de l'émission. Le Québec est le créateur original de l'émission. Donc, à part ces petits détails techniques-là, t'sais, en tant que tel, les sketchs sont bons. T'sais, on retrouve les personnages. T'sais, on retrouve Élise, on retrouve le père. Mélanie est quand même dans le décor. On apprend ce qu'est devenu Anakin. Ça, c'est très drôle. Anakin, le demi-frère de Guy et le fils de Mélanie. Et justement, on les voit là. On risque de les revoir dans les autres épisodes. Donc, c'est un peu l'espèce de différence qu'il y avait avec les précédents épisodes, parce que c'était un bloc complet avec, mettons, Élise Guilbeault, ensuite un bloc complet avec le père et Mélanie, un bloc complet avec la belle-mère, etc., etc. Fait que, tu sais, on les enchaîne quand même, ces séquences-là, entre les épisodes. Donc, au moins, on peut les revoir davantage. Et non pas uniquement une apparition, merci, bonsoir. Loulou et Daniel aussi vont revenir un moment donné. Fait que, tu sais, il y a tout cette espèce de melting pot-là que justement permet à cette histoire-là d'évoluer un peu différemment de ce que serait normalement l'émission, mais ça fonctionne quand même. Et pourquoi justement un gunfille fonctionne encore aujourd'hui? Parce que justement, ce sont des personnages qui fitent avec l'âge qu'ils ont. Il y avait fin trentaine, début quarantaine dans l'émission originale, sont rendus à 60 ans. Et se posent des questions justement de ces gens-là de 60 ans, mais vivent la situation selon leur point de vue, mais sont évidemment rattrapés par ce qui se passe avec aujourd'hui. Tu sais, justement, il y aurait pu avoir un malaise parce que c'est mal joué avec le fait que la fille de Guy et Sylvie rencontre une personne qui est non-binaire, puis là, il ferait des jokes malaisantes, puis tout ça, mais justement... Il accuse ce fait-là que ce sont des gens qui ont 60 ans, qui ne sont pas nécessairement au courant à 100% de comment la dynamique doit être pour que tout le monde... Et encore là, c'est pas un sketch de 10 minutes de « oui, mais là, c'est pas juste des malaises ». Tu sais, ce gag-là spécifiquement avec la fréquentation de la fille de Guy et Sylvie dure 10 secondes. On fait le gag, c'est gentil, merci, bonsoir. Il n'y a pas de malaise de justement étirer ça de « Ah, oh, mais là, c'est-tu il, c'est-tu elle, c'est-tu y a... » On va pas dans ce genre de cliché-là, justement, qui aurait pu être facile, qui aurait pu... on fait rire cette génération-là plus que d'autres choses. Non, parce que justement, on veut rallier tout le monde. On veut pas qu'il y ait des gens qui fassent comme « Ah, oh, mais là, c'est malaisant, puis c'est pas respectueux. » Non, c'est super. Super bien fait. Et justement, il y a cette préoccupation-là de justement, si on veut faire un gag un peu mononque, un peu niaiseux, ben que justement, il y ait quelqu'un pour l'accuser. Et justement, c'est le rôle un peu de la fille de Guy et Sylvie de faire comme, oh, franchement, là, voyons que tu dis des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. C'est bien niaiseux ce que tu dis. Justement, pour dédouaner, dédramatiser que il aurait pu avoir un certain malaise, mais il n'y en aura pas parce que justement, on accuse le fait que c'est volontaire, que justement, il soit un petit peu maladroit, mais que c'est pas pour mal faire, parce que justement, un peu plus tard dans ce même épisode-là, il y a une séquence où justement, Guy et Sylvie discutent de cette question-là, que leur fille est fluide, non, puis qu'ils l'acceptent, puis qu'ils l'accompagnent, et qu'il est heureux pour elle de ce que, qu'elle aille bien, que ça soit l'important. Donc, il y a ce souci-là, et c'est justement pour ça que c'est un retour réussi. Évidemment, il reste 3 épisodes, c'est un premier épisode, mais on comprend que la recette marche encore extrêmement bien et qu'il y aura cette possibilité-là parce que ça va fonctionner. À la télévision, comme je le disais, il va y avoir une diffusion et contrairement à ce que je pensais que ça allait être probablement pendant le temps des fêtes, c'est tout prochainement. C'est les 24, 25, 26 et 27 avril consécutivement dans la case du 19h, donc dans la case de Stat, qu'ils vont laisser libre à Urgun Fee pendant toute cette semaine-là. Donc, en rafale, les 4 épisodes vont être présentés. Les gens vont pouvoir déjà l'attraper à la télévision traditionnelle. Donc, c'est réellement une avant-première de mettre un épisode à chaque jeudi pendant le mois de mars. Tandis qu'au mois d'avril, ben, on va avoir la diffusion complète des épisodes déjà là. Donc, ça vaut la peine d'aller le regarder, de le réécouter. La recette qui fonctionnait à l'époque, fonctionne encore aujourd'hui parce que justement, ils se sont actualisés. Ce sont des personnages qui sont rendus en 2022-23. C'est pas tout à fait comme la petite vie, justement, que ces personnages-là risquent d'être pognés début 2000, que ça va être difficile de les amener en 2023 sans qu'eux autres créent des malaises. Parce que justement, ce genre de malaise-là, évité dans Urgun Fee, pourrait se retrouver extrêmement facilement dans la petite vie. Et comme ce sont tous des personnages qui, techniquement, ne se peuvent pas dans la vraie vie, ou en tout cas sont l'exagération de ben des clichés, de ben du monde, mais tout concentré dans les personnages individuellement, ben ça fait en sorte que c'est sûr qu'ils vont avoir des mauvaises réactions avec des trucs actuels, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ça va être très nébuleux dans le cas de la petite vie, tandis qu'un Urgun Fee, là, je veux pas encore revenir là-dessus, mais dans le cas d'un Urgun Fee, pour l'instant, ça marche super bien. On s'arrête une dernière fois au retour, la deuxième émission et cette espèce de grogne qu'il y a contre tout.tv sur les ondes de Chiz 94.3 et de ses FAC 80.3 Super Plage, tout de suite en musique. liste de super plages et de couleurs qu'on vient d'entendre en musique. L'autre série qui vaut extrêmement la peine et qui, elle, on devra attendre à l'automne. Ça, c'est un petit peu plus... ça sera un petit peu plus long, mais ça en vaudra particulièrement la peine. C'est Plan B. Ça a été un gros coup de cœur pour cette série-là quand c'est sorti. Et pour la petite histoire, il y a 4 ans, j'avais pu couvrir le gala des Gémeaux pour Chérie J'arrive, et ici à Québec. Et en entrevue, j'avais les récipiendaires du trophée de la meilleure série pour Plan B 2 avec Sophie Lorrain. Et en jasant avec les auteurs, Jean-François Esselin et Jacques Drolet, on parlait de Plan B 3 qui allait être une vision complètement différente avec Pierre-Luc Funk. Est arrivé ce qu'on appelle la COVID-19, ce qui a fait que Plan B3 a plutôt été avec Anne-Elisabeth Bossé, et que Plan B4 est devenu la saison de Pierre-Luc Funk. Donc, on a tout décalé, les projets, et avec une certaine raison, parce que il y a quand même une certaine proximité dans Plan B4 entre tous les personnages, ou en tout cas, on se tape sur la gueule un peu beaucoup, et les restrictions COVID qui disent que tout le monde doit se tenir à 2 mètres, c'est un petit peu dur pour tourner ce genre de série-là. Il y a beaucoup de drogue, il y a des parties, il y a du sexe, fait que ça serait difficile de faire cette série-là en période COVID comparativement à celle de Anne-Elisabeth Bossé qui avait, malgré les restrictions, quand même était capable d'être faite. Et de toute façon, le couple principal de cette aventure-là, donc avec Vincent Leclerc, entre autres, c'était pas mal le vrai couple dans la vraie vie. Donc, on avait cette restriction-là qu'on pouvait respecter dans le cas de Plan B 3. Revenons au 4. Dans le cas de Pierre-Luc Funk, c'est un jeune délinquant qui, l'a tout sauf facile dans la vie. Ses parents sont pas particulièrement aimants avec eux. Mélanie Pilon avec Vincent Leclerc, fin de la parenthèse. Pierre-Luc Funk, ses parents sont pas particulièrement aimants. Patrice Coquereau, notamment. Je suis tout le temps en train d'oublier un comédien, c'est pas gentil. Tu sais, c'est pas une bonne famille, c'est pas une belle famille non plus tant que ça. Fait que c'est pas particulièrement reluisant. Il est dans les délinquances, il fait des vols, il s'arrange pour pour commettre des petits crimes. On le retrouve alors qu'il sort de prison parce que justement il a fait un vol à sa job, à la job TD qu'il avait d'un magasin d'électronique. Fait qu'il s'est associé avec des voisins un peu louches pour Évelyne Rompré. Voilà. Ce qui joue sa mère. Donc, il s'associe avec, les gens de délinquants de son HLM pour voler le magasin. Puis ça va pas... Ça se déroule pas super bien dans ce cas-là. Lui, il se ramasse en prison. Non. Fait que il arrive toutes sortes de choses jusqu'au point où, un moment donné, il est un peu... T'es un peu tanné que tout aille mal. Et tombe... Ou plutôt... Non, c'est un individu gâcheur. Je peux même pas dire comment qu'il se ramasse avec Plan B. Donc, il arrive un événement qui fait en sorte que le personnage de Jesse, le personnage de Pierre-Luc Funk, retourne dans le temps de 24 heures et recommence sa journée au complet. Évidemment, il se rend compte qu'avec cette journée-là de 24 heures en banque et en tête, il est capable de corriger quand même beaucoup de choses qui sont un peu beaucoup mal passées dans cette journée-là pour arriver finalement à peut-être être capable de réussir à s'en sortir. Mais évidemment, ça se déroulera pas comme prévu, un peu comme tous les plans B qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et à la différence du plan B de Louis Morissette, de Sophie Lorrain ou d'Anne-Elisabeth Bossé, le plan B un peu de ce jeune que quelque chose aurait pu y réussir un moment donné, et parce que il a pris que des mauvaises décisions à partir de ce moment-là,
vient la question de, encore une fois, un peu comme, non, Sophie Lorrain l'avait fait quand même revenir très très loin dans le passé. Dans le cas de Pierre-Luc Funk et son personnage, il va avoir à penser à revenir lui aussi très très loin dans son passé et faire comme, et si je recommençais ma vie? Et toute cette espèce de question-là, et justement, et parce que, justement, il tombe un peu par accident, disons ça comme ça, sur plan B. Disons que c'est ça un peu qui va y donner une espèce de dimension différente. Parce que dans le cas de Sophie Lorrain, d'Elisabeth Bossé puis de Louis Morissette, ils ont tous les trois appelé eux-mêmes plan... Non, là, j'en dis trop. Là. Eux, ils appellent plan B. Désolé, divulgation, spoiler. Les trois autres appellent plan B directement. Pierre-Luc Funk, c'est un accident. Et cet accident-là, justement, lui permet de mettre en perspective où ça a pas marché. Qu'est-ce qui a pas marché? Et il décide de revenir sur ces événements-là pour essayer de corriger ces événements-là. Jusqu'à temps que, ben même avec les corrections, parce que c'est ça dans tous les épisodes, même les corrections ne sont pas nécessairement la bonne chose à faire. Oui, on corrige des problèmes, mais est-ce que de corriger ces problèmes-là vont faire en sorte qu'on va oublier que ces événements-là se sont déroulés dans une tangente ordinaire? Pas nécessairement. C'est arrivé à Louis Morissette, c'est arrivé à Sophie Lorrain, c'est arrivé à Pierre-Luc Funk. Qu'il y a des événements qui se produisent, qu'on les empêche, mais qu'on pense qu'ils se sont encore produits, mais qu'ils se sont pas produits. Bref, c'est une excellente série. Ça vaut énormément la peine de le voir. Et c'est indépendant des autres saisons. Donc, on peut attraper un plan B saison 4 sans avoir vu les trois autres parce qu'on explique d'une certaine manière les règles un peu à chaque fois. Donc, quand même qu'on sait les règles, on va la réexpliquer, mais ça va se faire naturel de réexpliquer les règles de plan B. Parce qu'eux le savent pas, cette règle-là, même si les spectateurs, ça fait 4 saisons qu'ils la voient. Donc, ça vaut la peine d'aller l'attraper quand ça va jouer. Ça devrait être cet automne, plan B4 avec Pierre-Luc Funk, Patrice Robitaille et Evelyne Rompré qui joue le clan familial principal. Et à ses côtés, le si triste Étienne Gallois qui joue le meilleur ami de Pierre-Luc Funk. Il fait tellement pitié. Pauvre petit, il est comme l'espèce de meilleur ami sauf douleur du personnage de Jesse qui est comme, oh, mais je veux juste être ton ami, moi. Puis oh, il fait tellement pitié, ce pauvre petit personnage-là. Puis mon Dieu, qu'on voudrait comme là, il dit, lâche-les, il est toxique pour toi. Lâche-les, le Jesse. Puis il reste avec. Puis il veut juste être son ami. Pauvre petit pit. Donc, ça vaut la peine, plan B4, dès que ça sort, sautez là-dessus. Ou, abonnez-vous à l'extra-tout.tv. Ça vaut la peine, l'extra-tout.tv, parce que, essentiellement, c'est un avant-première, tu sais. C'est un quoi? C'est un 6, c'est rendu 6, 7 $, 8 $. Si vous aimez les séries québécoises ou les films québécois, les traductions québécoises, les doublages québécois, c'est la plateforme de référence. Il y a des séries françaises aussi, mais tu sais, pour le contenu québécois, ça vaut la peine d'aller le rattraper. Il y a plusieurs séries qui datent aussi, qui se retrouvent là-dessus, ça vaut la peine. Pour quelqu'un qui aime ce matériel-là, va y trouver son compte. Évidemment que ça leur prend des nouveautés, ça leur prend du stock que découvrez en avant-première sur l'extra de tout.tv. Pourquoi est-ce que, bon, il y a une espèce de crise en ce moment sur les médias sociaux de « Oh, ça n'a pas d'allure qu'on paye pour ces émissions-là, puis il faut qu'on repaye si on veut les regarder. » Ben non, personne n'est obligé. Personne n'est obligé de s'abonner à l'extra de tout.tv. Il y a des forfaits de chez TELUS qui donnent un accès à l'extra de tout.tv parce que c'est TELUS qui est commanditaire. Fait que tu sais, il y a moyen d'un cellulaire TELUS puis tu peux avoir accès à l'extra de tout.tv. Fait que tu sais, il y a moyen de l'avoir sans nécessairement être obligé de payer le 6, 7, 8, 9 $ que ça coûte. Mais encore là, si c'est quelqu'un, si c'est une personne qui aime les séries québécoises, qui veut justement se faire du binge-watching, qui veut regarder une série en rafale, ça vaut la peine. Plan B, ça s'écoute en une soirée. C'est 6 épisodes de 44-45 minutes. Fait que ça s'écoute super bien en une ou deux soirées parce que il y a des épisodes rough quand même. Tu sais, ça a de l'espèce de mise en rappel et mise en situation, un peu comme celui de Sophie Lorrain. Sophie Lorrain, je l'avais écouté aussi en rafale. Puis les deux, ça c'est les deux saisons qui sont vraiment très émotives de qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place tous les deux. Il y a beaucoup de ça. Louis Morissette, Anne-Élisabeth Bossé, un petit peu moins parce que c'est un petit peu plus spécifique, ça a plus rapport avec leur job. Tandis que Sophie Lorrain, Pierre-Luc Funk, c'est vraiment le personnel davantage, j'ai envie de dire, la différence entre les quatre saisons, là, si elles peuvent se recouper à quelque part. L'émotionnel pour Sophie Lorrain, puis pour Pierre-Luc Funk, puis le professionnel et relationnel dans le cas d'Anne-Élisabeth, puis dans le cas de Louis Morissette. Donc, ça peut être la grosse différence entre les deux. Donc, personne oblige, personne, à s'abonner à l'extra-tout.tv. C'est un avant-première, c'est accéder à un contenu qu'on peut voir. Un film au cinéma, le voir au cinéma avant qu'il sorte à TV traditionnel, c'est un peu un avant-première. Tu sais, de payer 12$ maintenant, au lieu d'attendre 4 ans avant qu'il passe à la télé traditionnelle avec des pubs et avec des segments en moins parce qu'il faut que ça rentre dans la case télé. On enlève un 30 secondes, une minute ici et là au film. Tu sais, de voir l'œuvre intégrale au cinéma pour un 12, 13, 14$, c'est un peu l'avant-première. Donc, l'extra-tout.tv a le droit d'exister. Oui, c'est plate de payer, mais maintenant, il faut que ça se rentabilise un petit peu. C'est, oui, c'est le gouvernement, c'est des subventions du fédéral, non. Oui, OK. Mais c'est un avant-première, c'est un extra. Ça le dit dans le nom, c'est un extra à la plateforme. Arrêtons ça là. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour l'autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFA 88.3 à Sherbrooke. À la semaine prochaine. Salut!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours, présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une...